Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h57, nous sommes le 21 mai 2019 et j'aimerais pour démarrer l'émission rendre un hommage solennel. Au mardi, ô toi mardi délaissé, éternel suiveur de l'impopulaire lundi, dans le sillage duquel tu te morfonds. On te traite souvent de suiveur, on te trouve insipide, sans âme, on peine à te définir. À la différence des autres jours de la semaine, qui sont plus clairement définis, c'est bien simple, lundi est un con. Le mercredi, c'est le jour où les enfants ont mal au ventre parce qu'ils ont mangé des têtes brûlées sur le chemin du judo. Le jeudi, le jour où les étudiants ont mal au ventre après la soirée open bar de la veille. Le vendredi et le samedi sont les chouchous de tous, quant au dimanche, il est encore plus facilement identifiable, c'est le jour où on ne se lave pas. Tout est limpide, sauf pour le mardi. Alors hommage à toi, mardi mal-aimé, avec mes consoeurs du petit matin, Eva Rock et Céline Dacosta, on te serre fort dans nos bras et on te dit mardi outragé, mardi martyrisé, mais par la force des mots, mardi libéré. Eva, une réaction à chaud à mon merveilleux hommage au mardi?
Comme quoi on peut être chef et nul.
Bon, alors, au lieu de vous montrer insolente, dans une période de renouvellement des contrats où il n'est peut-être pas très malin de l'être, je vous invite plutôt, Eva, à nous faire part de votre question du jour, s'il vous plaît.
Alors, question très 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 intelligente, c'est l'anniversaire d'Antoine de Maximien. Vous savez qu'il adore, il adore aller dormir chez l'habitant, voilà. Mais vous, quel type de voyageur vous êtes? Quel type de voyageur vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt grand luxe ou baroudeur comme Mathieu Noël? Est-ce que vous aimez bien aller dormir chez l'habitant? Puis racontez-nous vos péripéties de voyage. Vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir envoyé quelques anecdotes croustillantes, vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
On rappelle le nom de l'émission d'Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous.
Oui.
C'est bien, Eva. Tout le monde n'est pas spécialiste télé comme vous.
Pardon, excusez-moi, ça me paraissait. Oui, c'est exact.
Mais ça me paraissait évident. Mais non, en ce mardi 21 mai, souhaitons un bel anniversaire au rappeur Stommy Bugsy. Éternelle tête de proue d'un rap exigeant, puriste, sans concession à la pop. Stommy Bugsy, qui s'appelle en réalité Gilles. Un prénom sous-estimé dans le milieu de la street, de toute évidence, d'où le changement. Céline, je vous vois marmonner des rimes dans votre barbe. Vous désirez poser un petit rap, comme disent les jeunes, afin de célébrer l'anniversaire de Stommy?
Vas-y, tac tac, boum boum, vas-y.
Ah ouais, ouais, je m'accaille. Bah sinon, Céline, vous pouvez nous rappeler la météo?
Ouais, va faire beau aujourd'hui. Non, je pourrais pas faire ça, non. Journée de transition, plutôt, on va dire ça comme ça.
Qu'est-ce que c'est que ça, une journée de transition? Quand est-ce qu'il fait beau?
Vous voyez, c'est entre les deux, bêtes demain. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
C'est clair, oui.
C'est un mardi transitoire.
Très
exactement.
Bien. Vous écoutez. Deux heures d'infos nappées d'une couche de fantaisie burlesque. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement afin d'approfondir, je cite, nos réflexions sur les valeurs de la diversité et pour apprendre à mieux vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est justement au cœur de notre émission. Chaque matin, vous pouvez sentir l'amitié non feinte qui existe entre les membres de Debout les copains. Moi, par exemple, avec Eva, je ne suis qu'amour.
J'ai une surprise pour toi à 6h45.
Est-ce que c'est une surprise qui se mange?
Non.
Oui, je suis qu'amour, sauf quand j'ai faim. Là, quand j'ai faim, je suis vraiment une ordure.
Nous sommes le mardi 21 mai. Merci d'avoir choisi Europe 1. Excellent réveil, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce 21 mai, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
La Cour d'appel de Paris ordonne que Vincent Lambert soit de nouveau alimenté et hydraté. Elle exige à la surprise générale la reprise des soins jusqu'à la décision d'une commission de l'ONU. Une victoire pour une partie de la famille, du sadisme pour l'autre. Je ne peux pas rester spectateur. Emmanuel Macron s'engage dans la campagne européenne à 5 jours du scrutin. Il alerte sur les risques de dislocation de l'Europe face au populisme dans des entretiens à la presse régionale. Et puis la mort cette nuit de l'ancien pilote Niki Lauda à 70 ans. L'Autrichien avait été sacré 3 fois champion du monde de Formule 1.
Europe 1.
Une très grande victoire pour sa mère, du sadisme pur pour son neveu. La justice a ordonné hier soir la reprise des traitements de Vincent Lambert, arrêté le matin même. Décision de la Cour d'appel de Paris, saisie par les parents de cet homme de 42 ans, tétraplégique et dans un état quasi végétatif depuis 10 ans. La Cour d'appel de Paris ordonne à l'État la poursuite de l'alimentation et de l'hydratation pour 6 mois, jusqu'à ce que le Comité international des droits des personnes handicapées, comité de l'ONU, se prononce sur le fond du dossier. Grande satisfaction hier soir de maître Jean Payot, l'un des avocats des parents de Vincent Lambert.
Une grande victoire du droit. Aujourd'hui, un tribunal nous dit oui, vous aviez raison, ce sont bien des obligations. La France est tenue par ses obligations. La France doit appliquer les mesures provisoires réclamées par le comité de l'ONU. C'est donc une grande victoire. C'est un désaveu formel pour le gouvernement français, naturellement. Aujourd'hui, les mesures provisoires sont prévues pour 6 mois afin que la France puisse répondre à nos arguments. Une fois que la France aura répondu à nos arguments, le comité de l'ONU verra si ces mesures provisoires doivent être maintenues. Pour l'instant, les dispositions de ce comité de l'ONU s'imposent et le docteur Sanchez n'avait pas le droit d'arrêter l'alimentation et l'hydratation et de commencer la sédation continue. Je vous l'accorde, c'est un coup de théâtre. Il y en a déjà eu quelques-uns, il y en aura peut-être d'autres.
Maître Jean Payot au micro Europe 1 de Romain Noquet, les avocats des parents de Vincent Lambert qui devraient ce matin se rendre au CHU de Reims pour vérifier cette reprise des soins. François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, sera l'invité de Nikos Aliagas à 7h45.
Europe 1, il est 5h03.
Une décision rarissime qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Deux salariés employés de supermarché en Bretagne ont été licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. Un homme et une femme, cette dernière avait 18 ans d'ancienneté. La direction a imposé de venir travailler 6 dimanches matin par an sans mention sur les contrats de travail ni avenant. Licenciés pour faute grave, ils ne bénéficient d'aucun préavis ni indemnité de licenciement. Ils vont attaquer leur employeur devant le Conseil des Prud'hommes. Témoignage dans le journal de 5h30.
Emmanuel Macron monte en première ligne à 5 jours du scrutin européen.
Interview dans de nombreux titres de la presse régionale ce matin. Un président qui se montre offensif à l'attaque du Rassemblement national. Jean-Rémy Baudeau.
Oui, Emmanuel Macron qui défend avec virulence son projet pour l'Europe. Dans les colonnes de nos confrères de la presse régionale, il tambourine « Je ne peux pas être spectateur ». Pour le président, cette élection est tout simplement la plus importante depuis 1979. En réponse aux questions des journalistes, il précise sa crainte de voir l'Europe se disloquer. Dans sa ligne de mire, les populistes européens et tout particulièrement le Rassemblement national, dont le projet n'a fait, selon lui, qu'affaiblir la France et diviser l'Europe. Emmanuel Macron, en véritable chef de parti, en tête de liste, qui sort de nouvelles propositions pour l'Europe, comme cette idée de convention fondatrice européenne après les élections. Il réitère par ailleurs des propositions sur l'immigration ou la protection de nos frontières. Il met l'accent sur la question écologique. Il dit vouloir aller plus vite et plus fort, notamment sur la taxation du kérosène. Au total, un Emmanuel Macron volontariste qui semble refuser les sondages qui donnent la liste Renaissance en deuxième position derrière la liste RN. « Je n'ai pas l'esprit de défaite », martèle le président. Un président plus que jamais en campagne.
Jean-Rémy Baudeau, la Tour Eiffel doit rouvrir au public ce matin. Le monument évacué hier parce qu'un homme s'y était accroché au niveau du dernier étage, juste en dessous, à plus de 200 mètres de hauteur. Il est resté agrippé pendant plus de 6 heures avant d'être maîtrisé par les pompiers. Ses motivations restent pour l'heure inconnues. Les États-Unis offrent un délai de 3 mois à Huawei avant d'imposer des sanctions. Le géant chinois des télécoms pourra encore, pendant cette période, pendant 3 mois, utiliser des logiciels américains. La guerre commerciale entre Pékin et Washington fait rage, mais à l'instant Huawei annonce des discussions avec Google. Ford annonce un plan d'économie et la suppression de 7000 emplois dans le monde et il n'y aura pas que des départs volontaires. On ne sait pas encore combien de licenciements dans chaque pays est concerné, mais les salariés des usines françaises pourraient être concernés. Et puis, c'était hier soir au Grand Rex à Paris. Une foule d'applaudissements et les notes d'un générique culte qui s'évanouissent. Le dernier épisode de la 8e et dernière saison de la série Game of Thrones était projeté hier au Grand Rex pour quelques centaines de fans. Alors qui finit sur le trône de fer? Ben, je vais vous le dire. Non, je vais pas vous le dire. Aux États-Unis en tout cas, record d'audience de l'histoire de HBO, la chaîne qui diffuse 19 300 000 personnes ont regardé ce dernier
épisode. On va évidemment pas spoiler, mais vous avez aimé la fin?
Divulgâcher, vous voulez dire. Divulgâcher.
Est-ce que on ne divulgâche rien, mais est-ce que vous avez aimé la fin?
Eh ben moi, oui, voilà. Je crois que
je suis pas encore regardé, je suis à la saison 2.
Je vous en ai d'où, vous?
À la saison 2.
Toujours, toujours en avance.
Que 60 épisodes de retard.
On passe au journal des sports. Mon cher Jérôme Lacroix, l'information de la nuit, c'est le décès de l'ancien pilote de Formule 1, Niki Lauda.
Champion du monde, oui, de Formule 1, 1975, 77 et 84. L'Autrichien est mort à 70 ans. Son histoire est à jamais liée à ce jour de 1976. Il réchappe de très très peu à la mort dans un impressionnant accident en compétition en Allemagne. Sa monoplace s'était embrasée. Il était resté 50 secondes dans sa voiture avant de pouvoir en être évacué. Depuis un an, sa santé était fragile. Il avait subi en août 2018 une transplantation pulmonaire.
Le PSG réagit après la sortie médiatique de Kylian Mbappé.
L'histoire commune se poursuivra la saison prochaine. Communiqué du club hier soir peu après 19h, moins de 24 heures après que l'attaquant star a déclaré que sa carrière se poursuivrait, je cite, au PSG ou peut-être ailleurs. La petite phrase continue de faire réagir, notamment Giroud, consultant européen. Du haut de ses dizaines d'années d'expérience d'entraîneur, voici son décryptage. 1. Mbappé grandit. 2. Il presse ses dirigeants de le faire jouer au poste qu'il désire la saison prochaine.
Je pense que la chrysalide est en train de se transformer en papillon, c'est-à-dire que cet adolescent qu'on a connu est maintenant un adulte de 20 ans, Comme il est très intelligent, il sait choisir ses mots. Tout simplement, il veut jouer avant-centre. Et c'est une manière de dire au PSG, vous me mettez avant-centre, c'est là que je veux être.
Il sous-entend qu'il pourrait quand même quitter le Paris Saint-Germain, et ça c'est une première, Guy.
Oui, c'est une première, et ça n'est pas tout à fait réaliste, parce qu'il a un contrat. Paris a démontré, quand il voulait garder un joueur qui avait un contrat et qui voulait s'en aller, il le garde.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Les Verts de Saint-Etienne vont changer d'entraîneur après deux saisons. Jean-Louis Gasset décide de partir pour des raisons personnelles, mais aussi pour des divergences avec certains autres dirigeants. Il laisse les Stéphanois 4e de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue Europa.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
Deuxième victoire pour le bleu du tennis. Richard Gasquet, depuis son retour à la compétition le mois dernier, il avait passé 6 mois sur le flanc pour blessure. Et il revient tout petit à petit, vainqueur mais difficilement hier au premier tour du tournoi de Lyon de son compatriote Maxime Janvier, 199e mondial. Gasquet, il a sauvé 2 balles de match. Il tente pour l'instant de ne pas se mettre trop de pression avant Roland Garros, dont le tableau principal démarre dimanche.
Merci Jérôme, c'était le Journal des Sports. Et je précise, un petit plus, j'ajoute, on parlait de Niki Loda. Oui. Je me souvenais d'un film, je ne retrouvais plus le nom, j'ai retrouvé le film Rush de 2013, un film de Ron Howard qui raconte la rivalité entre Niki Loda et un autre pilote de F1, un pilote anglais un peu fantasque. Et c'est un film très réussi, même si on ne s'intéresse pas du tout au monde de la voiture, c'est un très bon film, j'avais trouvé. Et comme ça, et encore Ron Howard, on n'est jamais déçu. Et ça vous fait découvrir comme ça Niki Loda qui nous a donc quitté cette nuit. Merci.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis qui n'a jamais déclaré en fin de soirée, on vit comme des cons, regardez-nous. Si on ouvrait un laser game en Auvergne tous les deux, t'es mon frère, tu sais. Avant de fondre en larmes avec un type qu'on connaît en fait depuis 5 minutes. Avoir pour projet de changer de vie, c'est une chose. Mener à bien ce projet, c'est une autre histoire. Chaque matin, Europe 1 donne la parole à ceux qui l'ont fait, d'en fallait oser. Aujourd'hui, Anne-Marie, informaticienne devenue créatrice de chapeaux, modiste, comme on dit.
Il est 5h10, Mathieu Noël.
Il est 5h10 et il est l'heure de faire un point sur la météo du jour. Alors parlez-nous de cette journée de transition aujourd'hui, Céline Dacosta.
Ouais, avec le retour du soleil demain et jeudi. Et puis ensuite, ce sera le retour de la pluie par l'ouest.
Alors, comment ça
Je suis désolée. Vendredi et samedi au moins. Aujourd'hui, on est encore entre les deux, avec du soleil ce matin pour le nord-ouest et près de la Méditerranée. Nuages, brumes et averses possibles pour les autres. Puis cet après-midi, il fera beau sur toutes les côtes. Ce sera un petit peu plus mitigé ailleurs, avec toujours ce risque d'averse, mais on se dirige quand même vers une amélioration. Les températures s'en ressentent, puisque la moyenne est en hausse cet après-midi, 18 à 25 degrés du nord au sud, avec un doux 20 degrés à Paris.
Merci Céline. Et Varroc, on peut toujours compter sur vous pour poser les questions les plus futées chaque
les
matin.
Les plus futées, surtout quand il s'agit de l'anniversaire d'Antoine de Maximi.
Ah bah alors là oui.
Animateur de J'irai dormir chez vous, et donc qui adore dormir chez l'habitant. Mais vous, quel type de voyageur vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt grand luxe ou baroudeur? Vous nous avez répondu déjà depuis ce matin 5h sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Sabrina qui nous dit « Moi c'est plutôt grand confort, surtout après avoir testé pour la première et dernière fois le camping en Bretagne, c'était il n'y a pas si longtemps. Rentrée de la plage un soir, les canalisations sous notre mobil-home avaient explosé avec nos affaires dedans, un massacre nous dit-elle. Et puis Mixery dont c'est l'anniversaire et donc à qui on souhaite aussi un très bon anniversaire, lui nous demande si pratiquer l'échange de maison, ça marche aussi.
Ah, j'ai eu peur. Oui, de maison, ça fonctionne.
Voilà, je voulais voir si vous alliez réagir et ça a marché. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe.
Vous voulez dire que je suis une proie idéale pour vos petits jeux sadiques?
Exactement.
Ouais. Merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous amuse, mais qui parfois aussi vous secoue. Comme chaque matin, vers 5h10, nous partons à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui un jour a eu l'audace de changer de vie. Ce matin, rencontre avec Anne-Marie Aubois. Elle a 58 ans et habite en Mayenne, à Château-Gontier. Anne-Marie a été informaticienne et ingénieure dans le même groupe agroalimentaire pendant 35 ans. Suite à un plan social, il y a 3 ans, elle a changé de voie. Après avoir longtemps hésité, elle a décidé de devenir modiste, c'est-à-dire créatrice de chapeaux.
Fallait oser.
C'est très curieux. Je me suis cherchée vraiment au début. Je regardais les émissions du meilleur pâtissier. Et je me disais, je vais pas être légitime dans le métier. Voilà, j'ai aucune expérience. Bon. Après, effectivement, j'ai revu mes prétentions un petit peu à la baisse. Plus un métier qui me ressemblait. Et ma passion, c'était réellement la couture. Hein. Après, je me suis dit, de toute façon, je vais faire les formations. Puis après, je verrai vers quoi réellement je m'oriente. Là, je suis créatrice d'accessoires de mode, tout fait main, mais particulièrement autour du chapeau, malgré tout.
Anne-Marie s'est formée pendant 2 ans et en janvier dernier, elle a enfin commencé à créer ses modèles. Elle a présenté sa première collection début avril.
Alors Anne-Marie, elle aime les chapeaux pour leur élégance. Elle n'hésite pas à mettre quelques touches de fantaisie dans ses patrons. Elle vend ses chapeaux sur des marchés. Elle vend ses chapeaux sur des marchés d'artisanat locaux et ce nouvel univers lui convient parfaitement.
Je rêve. Je vis un rêve. Je me sens super bien quand je suis dans mon atelier. Il n'y a aucun stress, même si je sais que j'ai quelque chose qui doit être prêt pour ce soir ou pour demain. Ça ne s'appelle pas du stress. Ça s'appelle comment je vais arriver à trouver l'astuce pour être dans les temps. Mais je ne suis pas stressée comme je pouvais l'être dans mon métier d'avant. J'ai l'impression de ne plus avoir de pression, même si, effectivement, je suis toujours très active dans toutes les démarches que j'ai à faire.
L'objectif d'Anne-Marie serait de pouvoir avoir une petite boutique à Château-Gontier pour distribuer les modèles issus des 4 collections qu'elle compte dessiner par an.
Et puis si vous aussi vous avez changé de métier, vous connaissez maintenant le chemin, un petit mail à la rédaction ou alors un tweet sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ou directement sur le portable d'Eva.
Voilà, exactement.
Vous le connaissez maintenant.
Bien sûr. Passez.
Europe 1.
Il est 5h14, Mathieu Noël.
Poursuivez.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos saupoudrées d'humour grâce à mes facétieuses comparses Eva Roque et Céline Dacosta.
Moi je vais vous dire où va partir Kylian Mbappé. Non, c'est pas vrai.
À suivre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le burn-out, sans jamais oser le demander à l'occasion du Salon de la Santé au Travail, le docteur Ichou vous dit tout sur ce phénomène, hélas, de plus en plus fréquent. Et puis, ce sera mardi les bons tuyaux, notre rubrique culture et high-tech, littérature, appli tendance, web documentaire, c'est le cocktail qui vous attend.
Le spritz aussi, c'est bon.
Mais non, c'est une expression, Céline, cocktail. En attendant, détendons-nous avec un classique revisité par un classique. Vous aimez les Stones, mais vous êtes plus sangria que bière pression ? Voici José Feliciano avec Satisfaction.
It scrambles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. So I try, and I try, and I try, and I try. Oh, well, he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I really can't get no. No, 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 no. I can't get no satisfaction. I can't get satisfaction, yeah.
Satisfaction par le fabuleux José Feliciano. Ça fait du bien ou ça fait pas du bien, Eva ?
Ça fait grave du bien.
Ça fait du bien de l'entendre. Merci.
Europe 1. Il est 5h16, Mathieu Noël.
À suivre, le tour du monde en 80 jours, c'est Jules Verne. Le tour de la presse en mode zapping, c'est nous. La comparaison est-elle excessive ? Vous nous direz. Personnellement, je suis confiant.
Il est 5h17, voici l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Les avocats des parents de Vincent Lambert sont attendus ce matin au CHU de Reims. Ils doivent constater la reprise des soins ordonnés hier par la Cour d'appel de Paris. La justice exige que cet homme en état quasi végétatif soit de nouveau alimenté et hydraté jusqu'à la décision d'une commission de l'ONU. Une victoire pour une partie de la famille, du sadisme pour l'autre. Une décision rarissime qu'Europe 1 vous révèle ce matin. 2 salariés employés de supermarchés en Bretagne ont été licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. La direction a imposé de venir travailler 6 dimanches matin par an, sans mention sur les contrats de travail ni avenant. Licenciés pour faute grave, ils ne bénéficient d'aucun préavis ni indemnité de licenciement. Ils vont attaquer leur employeur devant le Conseil des Prud'hommes. Enfin, Emmanuel Macron monte en première ligne à 5 jours du scrutin européen. Interview dans de nombreux titres de la presse régionale ce matin. Le président se montre offensif et attaque le Rassemblement national. Il alerte sur les risques de dislocation de l'Europe face au populisme.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 21 mai. Mais sait-on pour autant sur qui miser à Maison Lafitte cet après-midi? Certainement pas. Et si vous comptez sur moi pour vous conseiller, vous risquez fort de flinguer votre PEL. Alors demandons plutôt conseil à Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Maison Lafitte et mon pari gagnant sera le 104 Red Torch. En pleine possession de ses moyens, il se présente au départ de ce quintet avec de solides arguments. Sa régularité à ce niveau, comme le prouvent ses trois dernières courses, où il n'a jamais terminé plus loin qu'à la troisième place. Son aptitude au tracé rectiligne, sur lesquels il a toujours fait l'arrivée. Et enfin, une position idéale dans les stalles de départ, le paramètre indispensable pour réussir sur cette ligne droite. Alors notez bien, pour cet après-midi à Maison Lafitte, réunion 1 dans la première course, le numéro 4, Red Torch.
Il est 5h19.
Vous écoutez Debout les copains, et quand Jérôme Lacroix débarque dans le salon avec, pour tout vêtement, le maillot du TFC que lui a dédicacé André-Pierre Gignac en 2003 et qu'il n'a jamais lavé depuis, au cas où il le revendra un jour à Drouot, c'est que l'heure du petit déjeuner a sonné. Et aujourd'hui, édition spéciale.
Oh là là.
Cannes. Cannes la superbe, Cannes l'éternelle. Céline Dacosta et Varrock sont en effet partis hier pour 24 heures d'expédition au Festival du film. Au programme, projection de films underground LGBT biélorusses, rencontres et conférences avec des grands réalisateurs danois, entretien avec des distributeurs de films israélo-cambodgiens. Et oui, Céline ?
Et Kenji Girac.
Oui, pour les rencontres avec Kenji Girac, oui aussi, alors qui était sur place. Oui, Céline, elle voulait du people. Hein. Elle croyait d'ailleurs en reconnaître à chaque coin de rue. Le problème, c'est que comme elle n'a pas une bonne mémoire...
Putain, je me demandais où je l'avais vu.
C'est installé alors entre Eva et Céline un concours absurde, faire le plus de selfies possible avec des vedettes.
Non.
Pathétique challenge qui, initialement limité aux stars du cinéma, dérive à vite vers toute personne vue un jour à la télé.
Pourquoi avec Bachelot? Quelle drôle d'idée!
Pas physionomiste pour un sou! Eva et Céline ne cessaient d'enchaîner les boulettes. Exemple, lorsque Brad Pitt, cheveux longs jusqu'aux épaules et lunettes de soleil sur le front, a entamé sa montée des marches, Céline s'écria devant tout le gratin:
Qui souffre en Suisse Lalanne?
Quand arriva Steven Spielberg, Céline pensa qu'il s'agissait d'un teneur de parapluie.
Inconnu au bataillon, je ne connais pas.
Sans parler de la très presbyte Eva Rock, qui apercevant au loin Catherine Deneuve, demanda:
Ah, elle est toujours ministre.
Non, Catherine Deneuve, Eva. Enfin, Peau d'âne, le dernier métro, ma saison préférée. Vous pouvez pas ne pas reconnaître Catherine Deneuve, même Céline le savait.
La copine de Mickey.
C'est okay, la copine oula. De Mickey. Oui. Tu sais, c'est le canard. Ah, c'est la femme de Donald.
Oui,
tu sais.
Non, évitons les références à la chirurgie esthétique. Bref. La nuit tombée, Eva et Céline n'ayant pas réussi à se procurer d'invitation pour les soirées cannoises, elles s'assirent sur le trottoir à côté du videur à l'entrée d'une boîte de nuit mondaine, un kebab à la main, afin de commenter tous les refus d'entrée du physionomiste. À chaque fois que quelqu'un se voyait refuser l'entrée, Eva poussait un coup de gueule.
Pourquoi? Parce que c'est des ploucs.
Merci mesdames, merci, c'était vraiment... Vive le 7ème art! Vive le 7ème art, on passe au pressing.
C'est monde, en fait.
Oui, c'est exactement ce à quoi aurait ressemblé votre séjour au Festival de Cannes, vu qu'on n'aurait pas eu les accréditations. Notre revue de presse en mode zapping, Le Parisien et une partie de la presse régionale publient un entretien avec Emmanuel Macron qui clame « Je suis un patriote européen ». Le Figaro et les Échos préfèrent s'intéresser aux relations tendues entre les États-Unis et la Chine. Trump frappe un grand coup contre la Chine, titre le premier, pendant que le quotidien économique écrit « La nouvelle guerre technologique ». Seule Libération accorde sa une à l'affaire Vincent Lambert et titre « Question de vie et de mort ». Mais vous, mes indéboulonnables margoulins, qu'avez-vous déniché dans la presse du jour, Eva?
Ne riez pas, mais ce matin, je vous parle de pipi. Oui, d'urine. De l'urine, qualifiée de nouvel outil archéologique, selon un article paru dans La Croix, article scientifique très sérieux au sujet d'un village turc qui, il y a 10 000 ans, s'est lancé dans l'élevage d'ovins. Et bien, grâce aux traces d'urine dans le sol, les archéologues ont pu établir une chronologie précise de cette sédentarisation. C'est un village de 4 hectares qui est situé à 200 km d'Ankara et qui est fouillé depuis 1989 par des archéologues des universités d'Istanbul avec leurs collègues américains et allemands. Et ils ont comparé différentes couches de sédiments sur 14 mètres de profondeur. Et ils ont constaté une concentration de sel qui augmentait au fil des siècles. Alors, traduction, ça veut dire qu'il y avait de plus en plus d'animaux au mètre carré au fur et à mesure des siècles. Donc, il y avait vraiment une sédentarisation des populations. Les archéologues avaient déjà recueilli de multiples indices avec des traces d'habitation, des ordures, des ossements. Enfin, ce sont des indices habituels, mais tout ça prouver la sédentarisation des humains, mais ça ne suffisait pas à calculer précisément, par exemple, le nombre de bêtes élevées au cours du temps. Et bien, grâce aux analyses physiochimiques de ces traces d'urine, c'est désormais possible. D'autres sites de recherche pourront désormais bénéficier de cette nouvelle méthode, a fortiori, écoutez bien, si les analyses parvenaient un jour à différencier urine animale et urine humaine, ce qui techniquement devrait être possible. Oui, c'est bien la dernière ligne de l'article que l'on comprend que le distinguo entre deux pipis va nécessiter encore un peu de travail scientifique. En attendant, c'est une nouvelle méthode archéologique. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, c'est à lire dans La Croix.
C'est très bien, Eva. Je n'aurai pas de commentaires sur votre choix de sujet ce matin.
Mais quoi ?
Mais on voit
que vous allez raconter ça à votre fils ce soir en rentrant.
C'est possible. Voilà. Céline D'Acosta.
Alors que dans le Figaro, on nous annonce ce matin qu'une personne sur cinq serait hypertendue sans le savoir, dans les pages régions du Parisien, un maire propose du Viagra pour repeupler son école.
Vous êtes ligué contre moi ce matin, c'est ça ? Il y a une conspiration, c'est
non,
ma fête,
pas du
qu'est-ce qui se passe ?
Alors devinez, Mathieu, quel sujet j'ai choisi ? L'hypertension ou le Viagra ?
Le Viagra.
Oui. Le titre prête à sourire, c'est vrai, mais l'affaire est sérieuse. On part dans le Loiret, à Montereau, un village de 600 habitants, précisément, où jeudi dernier, le maire Jean de Bouzy a pris un arrêté dans lequel il se dit favorable à la distribution de petites pilules bleues pour stimuler l'érection. Un arrêté qui s'est empressé d'envoyer aux journaux locaux.
Mais c'est sur ordonnance, le Viagra, non ?
Écoutez la suite.
Je suis impatient, je prédis.
Depuis, évidemment, il fait le buzz et c'était le but, hein, vous vous en doutez, puisque son but à lui, c'est de redonner envie aux Montrelais de 18 à 40 ans de faire des enfants. C'est lui qui le dit, c'est dans son arrêté. Même si moi, je trouve qu'à 18 ans, c'est un petit peu jeune. Puis on peut aller jusqu'à 42, 40 ans. Bon, bref. Plus sérieusement, dans son arrêté, il propose également une prime spéciale maternité pour chaque naissance. C'est un texte pour attirer l'attention. Il n'est pas le seul maire à avoir fait ça. Le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le Loiret avait déjà fait un arrêté qui interdisait à ses administrés eux de tomber malades parce qu'il n'y avait pas assez de médecins dans sa commune et aux alentours. Lui, il a fait cet arrêté parce qu'une des classes de son école est menacée de fermeture et sans elle, le village est mort. Il le dit, sa commune accueille une trentaine d'enfants de la maternelle au CP. Le village voisin qui est à 5 minutes en voiture reçoit une quarantaine d'élèves du CE1 au CM2. La disparition d'une classe en primaire mettrait toute l'école en danger. Et ce qu'il veut éviter par tous les moyens. Ce problème de classe qui ferme, entraîne dans la fermeture des écoles dans les villages, on en parle quand même assez souvent. C'est un problème récurrent. On espère que l'appel du maire sera entendu par ses administrés.
Ça, c'est sûr. On croise les doigts.
En tout cas,
ça fera du bien.
Et pas que, comme disait
voilà, il se dit prêt à donner quelques boîtes de pilules bleues si ça peut aider. C'est-à-dire dans les pages régions du Parisien.
Sauf qu'a priori, les gens qui sont en âge de faire des enfants n'ont pas besoin de pilules bleues.
Oui, c'est vrai que c'est assez logique.
Voilà. C'est
Jérôme Lacroix, qui n'est pas en âge d'avoir besoin de quoi que ce soit, qui est en pleine forme.
Merci.
Un peu plus d'endurance.
Merci. Merci. Ça c'est dit. Papier assez édifiant ce matin dans l'équipe. Rencontre avec Marco Trungeliti. Il est argentin, il a 29 ans, tennisman professionnel classé 140e mondial. Bon, et il raconte dans le journal comment pour une partie du monde du tennis désormais, c'est la balance, voire un traître. Marco Trungeliti, il se définit comme un lanceur d'alerte. Il a dénoncé, dit-il, un mal qui ronge le tennis mondial. C'est la corruption, vous savez, des parieurs qui paient des joueurs pour perdre un jeu, un set, un match et récupérer derrière les gains des paris. Alors, à ce joueur argentin, ça lui est arrivé en 2015. On lui propose de 2000 à 50 000 dollars. Son interlocuteur lui dévoile même l'identité de 3 autres joueurs argentins qui marchent dans ses combines. Mais lui, il choisit d'alerter les autorités. Il contacte la Tennis Integrity Unit, l'organisme dédié à la lutte contre cette corruption-là, précisément. Aucune réaction dans un premier temps. Mais le joueur est recontacté 3 ans plus tard pour témoigner à visage découvert, et ça lui a pas plu, au procès des joueurs dont il avait donné les noms aux autorités, des compatriotes argentins en plus. Et depuis, Marco Trungeliti raconte vivre quasiment l'enfer. Insultes, menaces de mort sur les réseaux sociaux. L'année dernière, alors qu'il était en chemin, en voiture vers Roland-Garros, un journaliste argentin écrit sur Twitter « Tiens, la balance arrive à Paris ». Et puis, ce qui est peut-être le pire à entendre, Marco Trungeliti, l'hostilité de certains autres joueurs ou entraîneurs professionnels. Il décrit les regards bizarres, c'est son mot, dans les allées de Roland-Garros, les changements d'attitude avec ceux qui le connaissaient avant. Certains l'accusent d'avoir été payé pour balancer, si bien qu'il en vient à craindre pour sa sécurité sur les tournois. Mais oui, exactement. Malgré ces alertes, l'ATP, l'organisme du circuit professionnel, reste sourd à ses emails. Il demande notamment à ce que son nom soit lavé.
Mais ce qui est inquiétant, c'est que ça voudrait dire, vu la réaction contre lui, ça voudrait dire que le système est généralisé.
Voilà. Bien sûr.
Bien sûr, c'est une certaine partie, j'imagine une petite partie du monde professionnel qui réagit comme ça. Il a reçu le soutien notamment de Juan Martín del Potro, l'un des plus grands
joueurs. C'est quand même rassurant. Ouais. Merci Jérôme, merci à tous. Le pressing referme, c'est parti. En fait, Céline, Eva, j'ai pas eu le temps de vous poser la question. Vous avez vu quand même un ou deux films à Cannes lors de votre escapade ?
Un film fasciste et un film nazi.
Bien, impeccable. Allez, avançons.
Il est 5h27, maintenant.
Debout les copains, continuez avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Aguichant réveille à l'écoute d'Europe 1.
Allez, hop, on lève les gens.
Non, Aguichant. enfin, sympathique réveil.
5h29, Mathieu Noël.
Et on fait un point sur la météo, Céline. Encore des nuages et encore de la pluie.
Oui, on a quand même déjà un petit peu de soleil ce matin sur le nord-ouest. On en aura sur les côtes partout, hein, sur toutes les côtes cet après-midi. Et puis le ciel va être un petit peu mitigé, c'est vrai, avec des nuages, des éclaircies, un petit peu de brouillard aussi ce matin. Mais ça va s'arranger. On va vers une amélioration puisque le soleil sera de retour partout demain. Quant aux températures, elles grimpent 18 à 25 degrés. C'est la moyenne pour cet après-midi.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui dit oui à l'info mais non à la déprime. Mes antidépresseurs quotidiens, Eva Roque et Céline Dacosta, deux femmes desquelles peuvent jaillir à n'importe quel moment des réflexions pertinentes sur le monde qui nous entoure. Céline, démonstration.
Je trouve qu'il vieillit plus Elton John.
CQFD. À suivre, à l'occasion du Salon de la Santé au Travail, le docteur Ichou nous parle d'un phénomène auquel aucun secteur ne semble désormais échapper, le burn-out. Vous ne trouvez plus de sens à ce que vous faites ? Les journées vous paraissent interminables et votre patron est un odieux sagouin ? Seb ! Bordel de merde ! Tu sais ce qu'il faudrait, Seb, pour réparer ton erreur ? Il faudrait un petit déjeuner de qualité. Non, là, c'est pas mangeable. Faut me repenser ce petit déjeuner de A à Z. Vous êtes peut-être en burn-out à cause de patrons comme ça. Le docteur Ichou va vous examiner.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Toute l'info de ce 21 mai, c'est avec vous Hélène Zelani, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Un nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. La justice ordonne la reprise des traitements pour le maintenir en vie. Victoire pour les parents, déception pour son neveu, vous les entendrez. Emmanuel Macron monte au front dans la dernière ligne droite avant les européennes. Dans une interview à la presse régionale, il défend son rôle d'acteur dans la campagne pour que l'Europe ne se disloque pas. Et puis c'est l'information de la nuit, la mort du pilote de Formule 1, Niki Lauda. Il avait 70 ans.
Europe 1.
Cette douloureuse affaire connaît donc encore un coup de théâtre. Hier soir, la cour d'appel de Paris, saisie par les parents de Vincent Lambert, a ordonné le rétablissement des traitements qui venaient d'être interrompus le matin même à l'hôpital de Reims. La cour estime que le comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées doit d'abord se prononcer sur le fond du dossier. Une victoire pour Viviane, la mère de Vincent Lambert.
C'est une grande victoire pour moi. Comme quoi, il faut se battre jusqu'au bout quand on sait qu'on a la vérité. On s'est battu pour la vérité. Vincent n'était pas en fin de vie. Vincent n'avait pas d'obstination déraisonnable. Il avait besoin à boire, à manger et de l'amour, c'est tout. Depuis 6 ans qu'on martèle ça. Ce soir, on nous a entendus. La justice nous a entendus. Quelle merveille, quelle victoire. On est fiers de nos avocats. On est fiers d'être allés jusqu'au bout. Maintenant, il n'a plus affaire dans cet hôpital. Il faut qu'il sorte le plus rapidement possible.
Propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois. En revanche, colère et tristesse de François, le neveu de Vincent Lambert, qui était favorable à l'arrêt des soins.
Je suis totalement abasourdi, j'en reviens pas. Enfin, c'est du sadisme pur, moi je comprends pas qu'on puisse être aussi barbare avec son fils sans jamais se poser la moindre question, de savoir si éventuellement peut-être qu'il y aurait parmi tous ces gens un petit peu rationnels et tous ces proches de Vincent, il n'y aurait pas quelques personnes qui peut-être auraient un petit peu raison de penser ce qu'ils pensent par exemple. Non, ils sont du côté de la vie, c'est, voilà, c'est comme ça. Et s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut arrêter les traitements de Vincent, c'est peut-être pas parce qu'ils sont naturellement du côté de la mort, c'est peut-être qu'ils ont fait une réflexion tout simplement. Et que peut-être que les parents de Vincent pourraient essayer aussi à leur tour de faire une réflexion au lieu d'agir comme ils agissent. Quoi.
Le neveu de Vincent Lambert au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. Et ce matin, les avocats des parents se rendront à l'hôpital de Reims pour vérifier la reprise des traitements.
Emmanuel Macron se veut acteur et non spectateur de la campagne des européennes.
Oui, c'est la tonalité de l'interview que donne le chef de l'État à une quarantaine de quotidiens régionaux. Il explique que cette élection est la plus importante depuis 1979 et que s'il laisse se disloquer l'Europe, il aura une responsabilité devant l'histoire. Il réaffirme également sa confiance en son Premier ministre, Édouard Philippe, qui était en meeting hier soir à Vesoul. Il sera à Valenciennes ce soir, jeudi à Orléans, des mairies de centre droit. Et puis on l'apprend ce matin, Niki Lauda est mort. Le pilote de Formule 1 autrichien avait 70 ans. Il était entré dans la légende avec son terrible accident en 1976. Sa Ferrari avait pris feu lors d'un Grand Prix en Allemagne. Il avait passé près d'une minute dans le cockpit avant d'être sauvé par d'autres pilotes. Des images qui avaient marqué le monde entier.
Europe 1, il est 5h33.
C'est une décision rarissime en France. Deux salariés viennent d'être licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche.
Oui, ils étaient employés à l'hypermarché Cora de Saint-Malo. L'une hôtesse d'accueil depuis 18 ans, l'autre au rayon crèmerie depuis 8 ans. Ils n'ont bénéficié d'aucun préavis ni d'indemnité de licenciement. François Coulon s'est rendu sur place pour Europe 1.
Elle avait le profil de l'employé modèle formé pour tenir la station-service, puis la bijouterie et enfin l'accueil de l'hypermarché Cora de Saint-Malo. 18 années de bons et loyaux services avant de se faire licencier brutalement pour faute grave. Motif refus de travailler le dimanche. La direction a tenté le bras de fer, Christelle.
Le dimanche, c'est obligatoire, c'est comme ça. Je dis, mais moi, je veux pas, moi. Il dit, c'est la loi Macron. Pour lui, c'est la conjoncture actuelle, le dimanche, c'est son gagne-pain. C'était ça où on prenait la porte directe. Je dis, non, je ne ferai pas. Et après, procédure de licenciement pour faute grave. Faute grave, moi, j'ai dit carrément, fallait mieux que je vole, quoi. Refuser un travail le dimanche, ce n'est pas une faute grave. Mais je pensais pas qu'on m'aurait viré comme ça au bout de 18 ans de boîte. Moi, je trouve que le dimanche, non, c'est une vie de famille. Pour moi, c'est important d'avoir un loisir le dimanche. On ne doit pas forcer les gens à travailler le dimanche. Ok pour le volontariat, mais pas forcer les gens. Je suis dégoûtée, je suis en colère. Faire se faire jeter comme une malpropre, ça me sidère. Ça me hors de moi.
Christelle, licenciée avec un collègue, va attaquer le supermarché devant le conseil des prud'hommes. Pas un mot sur le travail dominical dans leur contrat d'embauche. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail de Saint-Malo estime que l'accord des salariés était nécessaire pour travailler le dimanche. Saint-Malo, François Coulon, Europe 1.
Et le directeur du CORA de Saint-Malo n'a pas souhaité répondre aux questions de François Coulon qui révèle donc cette information ce matin sur Europe 1. Et puis il a passé plus de 6 heures suspendu au-dessus du vide. Un homme a escaladé la tour Eiffel. Hier, il est resté agrippé jusqu'à la tombée de la nuit avant d'être maîtrisé par les pompiers. On ne connaît pas ses motivations. Du coup, la tour Eiffel a dû être évacuée pour la plus grande déception des touristes. Elle rouvre ce matin à 9h30.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani, professionnelle jusqu'au bout des ongles, mais dont l'esprit taquin est volontiers mal tourné, s'exprime parfois en off, comme vendredi au détour du témoignage d'un militant un peu trop poète.
Ne vous laissez pas impressionner par l'arrogance et le mépris. Soyez fiers de vous-même.
C'est très bien qu'ils soient venus ici. De façon refondée, la gauche, il m'a ébranlé émotivement.
M'a ébranlé émotivement.
Comprenne qui pourra.
Lui, Hélène, vous le croisez chaque matin en chair et en os. Je peux vous dire que ça l'ébranle émotivement aussi de vous voir. Bon. Beaucoup, beaucoup. Merci. Jérôme Lacroix, vous avez rejoint pour le journal des sports. Je n'arrive pas à faire cette phrase. À la une du JDS. Ce sera chaud sur les bancs. Qu'est-ce que c'est que ce lancement?
La fin de la saison de Ligue 1, c'est vendredi soir. Voilà, dernière journée, 10 matchs.
Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Ça sera chaud sur les bancs.
Vous allez comprendre. Dernière journée de Ligue 1, vendredi, 10 matchs, 21h05. Et vous pourrez vivre cette dernière journée en direct sur Europe 1 Multiplex. L'été viendra avec le temps du remue-ménage, marché des transferts. Et on sait déjà que plusieurs places fortes françaises seront concernées par un changement d'entraîneur. Cyril de la Morinerie.
C'est une valse des entraîneurs comme la Ligue 1 n'en a pas connue depuis longtemps parce qu'elle concerne plusieurs très grands clubs français. Saint-Etienne, Lyon, mais aussi Marseille vont changer de technicien. Jean-Louis Gasset annonçait hier son départ des Verts. L'entraîneur de 65 ans qui souhaitait plus de moyens pour recruter des joueurs claque la porte. Il pourrait rejoindre son club de cœur Montpellier dans un rôle à définir. À Lyon, Bruno Genesio a été poussé vers la sortie. L'ancien spécialiste des coups francs, le Brésilien Juninho sera directeur sportif et son compatriote Sivinho entraîneur. À Marseille, fin de règne pour Rudy Garcia. Son départ pourrait être officialisé dans les tout prochains jours, mais le club phocéen devra lui verser des indemnités de plus de 10 millions d'euros. À Nantes, le locataire du banc de touche pourrait lui aussi changer. Vahid Ali Lodzic est en froid avec ses dirigeants. Rennes souhaite conserver Julien Stéphan, vainqueur de la Coupe de France, mais l'entraîneur n'a pas encore donné son accord. Enfin, Brest ne jouera pas en Ligue 1 avec Jean-Marc Furlan, qui a confirmé son départ à Auxerre en Ligue 2.
L'histoire commune se poursuivra la saison prochaine, communiqué du PSG hier soir au lendemain de l'inattendue sortie de Kylian Mbappé dimanche soir. Il affirmait que la suite de sa carrière se dessinerait, je cite, peut-être ailleurs qu'au PSG. Le Giro, 10e étape aujourd'hui du Tour d'Italie cycliste, 145 km de Ravenne à Modène. C'est tout plat, c'est une étape pour les sprinteurs, on pense aux Français. Arnaud Démare, la montagne se profile, ce sera après-demain.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
Je vous le présente, il s'appelle Théo Malédon. Il a 17 ans et c'est sans doute l'un des futurs très grand nom du basket français. Il joue à Villeurbanne, l'ASVEL, l'un des plus grands clubs du pays, celui qui appartient à Tony Parker, à qui on le compare souvent parce que lui aussi, ce jeune Théo Malédon, il joue meneur de jeu. Il a été élu hier soir, Théo Malédon, meilleur espoir de première division lors des trophées annuels du basket français. Il est en pleine ascension et ça le grise.
Je me définis comme une personne plutôt calme, posée. Après, sur le terrain, je me vois beaucoup plus expressif quand même. L'année dernière, j'étais sur le banc avec l'ASVEL et je ne jouais pas du tout. Je jouais avec les espoirs, même avec les cadets. Et après, au final, ça surprend pas mal de gens, mais pour moi, je me dis que c'est juste la suite.
Et c'est David Olson, l'Américain de Dijon, qui a été élu meilleur joueur de la saison de basket.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme, qui, vous savez, entretient avec Céline une relation extra-professionnelle périlleuse. C'est pourquoi ils ont mis au point un langage codé, destiné à tromper la vigilance de leurs conjoints respectifs. Et de fait, leurs conjoints ne comprennent rien. Le problème, c'est qu'eux non plus.
Bah, et alors ?
Oh la vache ! Bon, envoyez-vous des textos, ce sera plus simple.
Europe 1.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, tout savoir de l'info sans jamais oublier d'en rire. À suivre, votre point santé. Justement, à l'occasion du Salon de la Santé au Travail, le docteur Ichou se penche sur ce mal qui est en passe de devenir le mal du siècle. Plus qu'un vague à l'âme, une véritable dépression sur votre lieu de travail et qui n'est pas forcément liée à un excès de travail, souvent aussi simplement un manque de sens, le burn-out. Le docteur Ichou nous dit comment le surmonter dans un premier temps, le diagnostiquer. Moi j'ai un truc, quand deux salariés se mettent à chanter...
On a mal passé le choix,
n'y va pas.
Eh ben, j'ai pas fait médecine, mais c'est qu'il y a du burn-out dans l'air.
N'y va pas.
Il est 5h41, Mathieu Noël.
Faisons un point sur la météo du jour avec vous, Céline. Le soleil revient progressivement.
C'est une bonne nouvelle, ça, Mathieu.
Sans se presser.
Bah alors, d'abord sur le nord-ouest ce matin et des Pyrénées à la région PACA avec du vent. Nuages éclaircis pour les autres après dissipation de quelques brouillards. On n'est pas à l'abri aussi de quelques averses. L'amélioration continuera cet après-midi avec du soleil sur les côtes. Nuages éclaircis et encore ces averses possibles pour les autres. Un risque d'orage sur les Alpes du Sud et le Massif central. Et côté thermomètre, ça grimpe. 18 à 25 degrés, c'est la moyenne pour cet après-midi.
Merci Céline Evaroc.
À l'occasion de l'anniversaire d'Antoine de Maximi, qui adore aller dormir chez l'habitant, vous savez, notamment dans son émission J'irai dormir chez vous. Vous, quel type de voyageur vous êtes ? Est-ce que vous êtes plutôt grand luxe ou baroudeur ? C'est la question du jour et vous nous avez répondu sur Twitter avec le hashtag Europe 1 comme Carole qui nous dit plutôt baroudeur, en tout cas quand elle faisait encore des voyages. Elle a plein de souvenirs complètement fous. Les États-Unis, la moto, la route 66, des rencontres, dormir sur le site de Danse avec les loups, Las Vegas. Et elle nous dit, je me rends compte que c'était trop bien et on la comprend. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il vient de faire son entrée fracassante dans le studio, c'est le docteur Ichou. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Le salon de la santé au travail se tient à partir d'aujourd'hui, pendant 3 jours à Paris. Quel est le concept de ce salon, docteur ?
Ce salon présente à la fois des stands et des équipements, les derniers équipements et les meilleures solutions pour préserver sa santé et sa sécurité au travail. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie et de tendre à une meilleure qualité de travail. Alors, on y trouve des stands, comme je vous l'ai dit, des conférences sur toutes les dimensions de la santé au travail, toxicologique, environnementale, sociale et organisationnelle, c'est dur à dire. Le tout dans une approche plus globale de l'individu dans son environnement hors travail. Alors, si la sécurité et l'environnement sont bien prises en compte, je suis plus dubitatif pour l'organisation et la santé psychique au travail. D'ailleurs, vous voyez, derrière mode, on parle de mettre des bienveilleurs dans l'entreprise.
Des bienveilleurs, mais c'est plutôt une bonne idée, ça, au départ.
Alors, dans l'intention, oui. Dans la réalité, c'est une autre histoire. Le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement physique, mental, émotionnel, qui se caractérise par les symptômes d'une dépression associée à une dévalorisation de soi, une perte de sens et très souvent une culpabilisation. La racine de cette maladie se trouve dans l'organisation, parce que l'entreprise exerce une pression forte sur ses salariés, pour des raisons d'objectifs, financières ou en tout cas de stratégie. En bout de chaîne, le salarié se trouve souvent dans un étau parce que les ressources manquent ou que les objectifs ne sont pas atteignables. Donc si dans ce contexte, vous mettez des managers un peu cow-boys sans aucune empathie, les conditions sont réunies pour le burn-out et vous pouvez mettre tous les bienveilleurs du monde. Je
ça
ne pense
changera pas grand-chose. C'est l'organisation elle-même qui est en cause. Merci Marcel. On se retrouve demain à 5h40 pour un nouveau point santé.
Europe 1.
Il est 5h44. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous éclaire sur l'actu sans jamais ménager vos zygomatiques. À suivre, littérature, appli tendance et web documentaire grâce au conseil de nos spécialistes, votre connaissance de l'actu culturelle bluffera vos collègues tout à l'heure au self. Ainsi à la question « Quel est l'événement littéraire de la semaine ?» Vous pourrez répondre avec le même petit ton agaçant que Céline Dacosta lorsqu'elle veut frimer.
Moi je sais.
Ne manquez pas mardi les bons tuyaux. Mais avant cela, si on s'écoutait un petit calot, comme le surnomme ses intimes. En plus, c'est la date de naissance des Baroques, 1987 sur Europe 1.
Tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine. Tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes, à Paris c'était les States, 1984.
Se souvenir, Eva se souvient. 1987, c'était Calogero sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h47, Mathieu Noël.
À suivre, et si on se cultivait un peu?
Bof.
Bon, Eva, faites un effort. Mardi, les bons tuyaux arrivent.
Il est 5h48, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les avocats des parents de Vincent Lambert sont attendus ce matin au CHU de Reims. Ils doivent constater la reprise des soins ordonnés hier par la Cour d'appel de Paris. Une victoire pour une partie de la famille, du sadisme pour l'autre. La Tour Eiffel doit rouvrir au public ce matin. Le monument évacué hier parce qu'un homme s'y était accroché au niveau du dernier étage à plus de 200 mètres de hauteur. Il est resté agrippé là pendant plus de 6 heures hier avant d'être maîtrisé par les pompiers. Ses motivations restent pour l'heure inconnues. Enfin, Ford annonce un plan d'économie et la suppression de 7000 emplois dans le monde. Il n'y aura pas que des départs volontaires, on ne sait pas encore combien de licenciements dans chaque pays concerné, mais les salariés des usines françaises pourraient être concernés aussi.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 21 mai, et au moment d'ouvrir notre page pronostic hippique, je le confesse, longtemps j'ai cru que la plus belle alliance de l'homme et du cheval qu'il me serait donné de voir dans ma vie, c'était Charlton Heston dans Ben Hur. Mais ça évidemment, c'était avant que je rencontre José Covès. Bonjour José.
Bonjour, arrête ton char mon cher ami, à Maison Lafitte et roulez les petits bolides, les 18% de la première course vont mettre 70 secondes pour parcourir 1200 mètres de la ligne droite. Mes 5 préférés, d'abord le 10, Mutrafort, il offre toutes les garanties du bon favori. Sur ses meilleurs titres, V2, le 11 a le droit de reprendre son envol. Le 4 est torche. Cette saison, c'est 3 courses. Pour 3 places, c'est 100% de réussite. Kangoon, le 13, a déjà fini 5e sur ce tracé, peut mieux faire. Il faut racheter Fastidious, le numéro 3. Cette fois, il est sur sa meilleure distance. Pour ceux qui veulent investir, le 16, Ross Castle, il s'est toujours surpassé sur ce profil. Le 2, Nadine Alloir, parce qu'il a déjà devancé plusieurs de ses adversaires d'aujourd'hui. Et enfin, le 5, Imperial Tango, sa valeur est à la hausse. Mon ticket pour la première course vers 13h50. D'abord le 10. Le 11, le 4, le 13 et le 3, et ensuite le 16, le 2 et le 5.
Si j'ai bien compris, Mutrafort le 10, c'est une assurance tout risque.
Disons qu'il est en forme, très véloce, il a une aptitude marquée pour cette ligne droite. En prime, il est associé à un très bon jockey, Pierre-Charles Boudot. Finalement, Mathieu, vous avez encore raison, il faut jouer ce Mutrafort en thème.
J'ai toujours raison, José. Merci.
Il est 5h50.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre séquence culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saff pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien et pour la littérature, celui qui en cette fin de saison tente de placer ses pions. Diabolique de machiavélisme, afin de se faire bien voir de ses potentiels supérieurs hiérarchiques l'année prochaine, Nicolas Caro pratique désormais le pot de vin en toute décontraction, offrant des livres, qui heureusement ne lui coûtent rien vu qu'il les reçoit gratuitement, à certains de ses collègues. Mais attention, pas tous. Bernard Poirette, par exemple. Oui, le type présente une tranche info le week-end. Mais Mathieu Charrier, outre un titre pompeux de vice-chef adjoint délégué du service culture, que peut-il vraiment faire pour l'avancement de Nicolas ? Pas grand-chose. Donc pas de bras, pas de chocolat.
C'est son dernier roman publié chez Gallimard. Vous me le prêtez ?
Je vous le donne même.
Ah non, 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 il n'y a pas question.
Mais je l'ai en double.
Ah bah très bien, alors.
Et moi alors ?
Bah je l'ai pas en triple.
Je vois ce machiavélisme. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un écrivain mythique, l'auteur de L'Attrape-cœur, Salinger.
Jérôme David Salinger, son histoire personnelle est aussi romanesque que ses livres. Je vous en parle parce que son fils, Matt Salinger, est en France. Il est à Paris cette semaine. Vous pourrez le rencontrer notamment à la Maison de la Poésie, samedi à 20h. Et Salinger aurait eu 100 ans cette année. Il est mort en 2010.
Et on sait finalement peu de choses de lui.
C'est ça ce qui est fou. En 1951, il publie donc L'Attrape-cœur. C'est l'histoire d'Holden Caulfield, un jeune garçon viré de son collège qui décide de se balader 3 jours seul à New York. Ce qui a marqué à l'époque, c'est le style. C'est écrit à la première personne avec le langage d'un ado. Ça commence comme ça. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça a ressemblé ma saloperie d'enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout.
Il a eu un énorme succès, le livre.
Oh oui, 65 millions d'exemplaires vendus. Il s'en vend encore plusieurs dizaines de milliers par an. Salinger a ensuite publié un recueil de nouvelles et c'est tout. Ensuite, il s'est caché. Il s'est mis à vivre reclus dans sa maison de Cornish, une ville du New Hampshire. Il a eu peur de cette notoriété soudaine. Il a eu envie de disparaître et il n'est jamais revenu dans le monde. Il n'existe que très peu de photos de lui pendant cette période. Il refusait tout contact avec des journalistes et encore moins avec des photographes. L'une des seules photos, c'est un paparazzi qui l'a prise. On le voit seulement se cacher le visage avec les mains en avant. Il a l'air de crier « Non !» Et tout le village était complice. Dès que quelqu'un se pointait en demandant des infos sur les lieux où il pourrait croiser l'écrivain, et bien les commerçants l'envoyaient sur une fausse piste, exprès. Il était protégé par les habitants de Corniche.
Mais est-ce qu'il continuait à écrire ?
Alors, longtemps, une légende a circulé, Salinger écrirait toujours, et beaucoup ont pensé qu'on découvrirait une malle pleine de manuscrits à sa mort.
Mais et alors finalement ?
Et bien alors au début rien. Et puis très récemment, il y a 2 mois, Matt Salinger, son fils, donc, a révélé qu'il existait des tonnes de papiers, qu'il était en train de travailler dessus et que les textes seront bientôt publiés. On attend donc.
Ouais. Ça se trouve, c'est lui, Elena Ferrante.
Ah.
C'est ma théorie que je lance comme voilà, ça ce matin, quoi. Conspirationniste. On cherche qui est Elena Ferrante.
En même temps, t'as des tonnes c'est de papiers, ça ne veut pas dire des tonnes de romans. Hein.
Oui,
moi
non,
j'ai des tonnes de papiers administratifs
c'est vrai,
chez moi,
de
c'est pas des romans.
Bon, en attendant donc, on peut rencontrer Matt Salinger à Paris samedi à la Maison de la Poésie.
Absolument.
Merci Nicolas. Le numérique à présent, Clément Le Saff, vous nous dévoilez ce matin les applications qui usent le plus la batterie de nos téléphones.
Ouais, et à votre avis Nicolas, Mathieu, Eva,
le GPS peut-être.
Céline, non, qu'est-ce qui utilise le plus de batterie
sur
nos téléphones ?
Ah non, le truc de
photo vidéo. GPS,
photo vidéo.
Eh bien pas du tout.
Ah bon ?
C'est raté, c'est selon une étude française, c'est assez rare pour être souligné. Bah, selon les navigateurs web et les réseaux sociaux, en fait, qui consomment le plus sur nos téléphones.
Les réseaux sociaux, mais c'est...
Non, absolument.
Trompé, Clément.
Vous irez expliquer ça à Atos, mon cher Nicolas. En fait, l'appli la plus énergivore, eh bien, c'est TikTok, le réseau social préféré des ados. Vous savez, celui où on se filme un peu en train de danser, en train de faire le pitre,
bien sûr,
etc.
Ouais.
Eh bien, ça cartonne, mais voilà, TikTok épuise la batterie 2 fois plus vite que la moyenne des applis qu'on a sur nos téléphones. Ça va quand même très vite. Et dans le top 10 des applis qui consomment le plus, eh bien, on trouve 5 moteurs de recherche quand même. On trouve 3 réseaux sociaux et seulement un jeu. On pourrait penser que les jeux, avec leur graphisme très poussé, etc., consomment beaucoup.
Oui.
Bah, finalement, pas du tout. On voit qu'on consomme plus de batterie en allant sur Twitter ou Facebook qu'en jouant à Clash of Clans ou Candy Crush.
Mais est-ce qu'il est possible de faire en sorte que nos applications consomment moins ?
Alors, tout à fait. Si vous avez un iPhone, par contre, c'est très simple puisque vous n'avez rien à faire. Finalement, l'iPhone fait tout seul. Contrairement à l'idée très répandue qui consiste à dire que si on laisse les applications tourner en arrière-plan, vous savez, elles consomment plus de batterie.
En fait,
ça c'est complètement faux. En fait, c'est un mythe. Ça sert à rien de les fermer manuellement en les envoyant vers le haut avec son doigt.
Oui.
L'iPhone est assez intelligent, en fait. Fermé.
Vous cassez tous les préjugés qu'avait Nicolas avec lesquels il veut rester.
Donc en fait, voilà, l'iPhone fait tout seul, il n'y a pas besoin de l'aider. En revanche, si vous avez un autre téléphone, donc type un Huawei, un Samsung, quelque chose qui marche avec Android, bah vous avez plutôt par contre intérêt à surveiller la consommation d'énergie de vos applis, puisque là, pour le coup, le système d'exploitation ne fait pas tout seul. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous allez recevoir des alertes pour vous dire, tiens, je trouve que cette appli-là tourne depuis longtemps et qu'elle consomme beaucoup.
Ah là,
c'est une notification. Dans ce cas-là, vous pouvez la fermer manuellement et vous économiserez de la batterie. Alors c'est des petits réflexes qui ne sont pas compliqués à prendre, c'est très simple à acquérir, et ça peut se révéler très très utile en fin de journée. Il faut quand même savoir que que les applications représentent 77% de l'énergie du téléphone utilisé dans la journée. Donc ça peut valoir le coup de faire quelques économies.
On arrête Candy Crush, Eva.
Oui.
Merci Clément Le Saffre. Eva Rock, on reste sur les écrans.
On reste sur les écrans. Vous continuez à consommer un peu d'énergie avec une nouvelle plateforme que je vous propose de découvrir qui s'appelle 99.media. C'est un site sur lequel sont proposés gratuitement des documentaires courts venus du monde entier et sous-titrés en plusieurs langues. C'est un nid à pépites, à commencer par ce documentaire de 14 minutes intitulé Jusqu'au bout de l'ennui. Nous sommes en Angleterre et des hommes appartiennent à un club, celui des hommes ennuyeux. Alors qui sont-ils ? Ce sont des hommes qui veulent s'éloigner du brouhaha du monde moderne pour contempler. Alors il y a un admirateur de ronds-points, un autre de boîtes aux lettres à travers le pays, un collectionneur de bouteilles de lait en verre ou encore un collectionneur de cônes de chantier. C'est surréaliste et poétique, c'est un vrai documentaire. Hein. Ce sont des vrais gens, comme avec cet homme qui a une autre passion.
I love riding escalators.
J'aime utiliser les escalators.
C'est agréable quand ça dure longtemps.
On est là, on se détend, sans se soucier du moment où il faudra descendre. On est là, on regarde les affiches, les publicités. Quand ça dure longtemps, certaines publicités reviennent. Donc si on en rate une, il suffit de descendre un peu pour la retrouver.
Et on l'observe ainsi sur son escalator, il est heureux. Alors oui, parfois on pourrait penser au dîner de cons, mais il y a une dimension poétique dans ce documentaire extrêmement touchante. Comme ils le disent, ils sont ennuyeux, mais pas sans intérêt. La vie de couple est souvent rythmée par ses passions. Un madame doit suivre, sinon la situation devient très vite compliquée. Offrez-vous une petite parenthèse dans votre journée, 14 minutes en découvrant ce documentaire sur le site 99.media et c'est gratuit.
Oui, des hommes ennuyeux, mais qui ont de bons dealers. Merci Eva Rock.
C'est des personnes âgées. Je veux rien dire en même temps, mais bon, voilà.
On peut être âgé. Oui, voilà. Merci à toute l'équipe des bons tuyaux qui se reformera demain. Céline, un dernier mot culture.
C'est très bon l'amour.
Merci quand même.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de
Céline Kalman.
C'est bien.
Il est 5h59, Mathieu Noël.
On fait un point sur le temps, Céline. Amélioration aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Avec le retour du soleil à commencer par le nord-ouest pour ce matin, il sera présent sur les côtes cet après-midi. Toutes les côtes, partout ailleurs, ce sera mitigé, hein, partagé entre nuages, éclaircies, encore quelques averses. Ça va aller en s'améliorant. On a un petit peu de brouillard aussi ce matin, mais il va se dissiper. L'amélioration continuera avec le soleil qui sera de retour demain pour tout le monde. Ah. Après-demain aussi. Et puis ce sera le retour de la pluie vendredi. On en reparlera. Oh. Les températures, elle remonte 18 à 25 degrés, c'est la moyenne pour cet après-midi.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos solides, saupoudrées de délicats copeaux de fantaisie grâce au surréalisme inné de mes consoeurs Eva Rock et surtout Céline Dacosta, une professionnelle des ondes chez qui tout est pensé, voire millimétré. Et il le faut quand on a l'écrasante responsabilité de donner l'heure toutes les 10 minutes. Or, chaque fois qu'on approche d'une heure ronde, Céline le sait, le journal arrive. Or, un journal, c'est parfois long. Il faut anticiper.
Est-ce qu'il y a une heure dans ton journal ou pas ?
J'en ai mis une, ouais. Ah, désolé. Non, je voulais aller faire pipi, mais comme parfois il n'y en a pas, non, mais c'est pas grave, j'irai plus tard.
Voilà. Tout est pensé, Céline. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin rebondit sur la polémique Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, soutient des listes nationalistes européennes. La majorité considère sa présence en France cette semaine comme une ingérence. Et l'ingérence, on va voir avec Fabrice que pour les Américains, historiquement, c'est une vieille habitude.